c'est censé être quoi?
Un divan, c'est là où tu...
Non, mais c'est avec quelque chose de convivial, tu vois, c'est quelque chose de convivial.
Ça va vous garder l'innocence, oui.
Le divan d'Alger, c'est quoi?
Ah oui, t'étais à l'arrosage. C'est un genre de conseil.
C'est une chambre de parlementaire pirate.
Ouais, qui était,
d'accord.
Du temps, ouais, c'est pas les trucs que tu retrouvais dans, chez les Ottomans, où l'Ottoman était allongé et tout. Voir, et, c'est le vizir souvent qui était là, qui gérait les affaires courantes. Hein, parce que le sultan était caché là-haut, tu vois, tu prends à Istanbul, là, dans leur palais, là, il est caché, mais tu sais jamais quand il est là, quand il n'est pas là. Mais les décisions se faisaient avec un gars sur un...
T'as lu
Xenobuto. T'as lu ça, la référence.
Calife à la place du calife.
Et bref, le divan d'Alger, il y avait des règles assez strictes. Je n'y avait pas le droit de boire avant d'y aller, il n'y avait pas le droit d'avoir des armes, des couteaux, il n'y avait pas le droit de se taper dessus avec les poings. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le droit au coup de pied. Enfin, utiliser les pieds d'une façon générale pour taper sur le sol, pour marquer sa désapprobation. Quoi. C'était assez musical. Enfin, quand on remonte à Athènes, quand deux phalanges s'opposent, eh ben, c'est un carnage sans nom. Quoi, parce que il n'y a pas grand-chose pour arrêter deux phalanges qui se rencontrent. Quoi. Alors... Voilà, c'est difficile de savoir un peu, de savoir quoi en penser, je trouve, parce que on peut y voir une méthode de guerre très barbare et qui a amené la démocratie au sens où, avec l'élargissement des armées, c'est aussi des classes sociales, enfin différentes, c'est les hoplites, donc une sorte de classe moyenne qui peuvent se faire entendre et qui peuvent demander peut-être que leur voix soit entendue. Donc, début de la démocratie avec ce système militaire. Et aussi peut-être une façon de poursuivre cette méthode militaire. C'est-à-dire qu'une fois que chacun considère que oui, c'est normal de participer à ces armées puisque chacun a son mot à dire par ailleurs, enfin, c'est une façon de... On peut se demander, oui, on peut penser que la démocratie... à la fois trouve son origine dans les phalanges, mais c'est aussi une façon de poursuivre ce mode de combat. Mais en même temps, on peut aussi voir les phalanges comme une façon de rendre la guerre plus limitée. C'est-à-dire que même si c'est un gros affrontement, ça reste un gros affrontement dans l'idée, quoi. Bon, même si au même moment, en Chine, on développait des méthodes de... ou plutôt on faisait le point sur des méthodes de combat... qui cherche plutôt l'évitement en fait et à gagner le conflit avant même qu'il ait lieu, quoi. Ça pour moi ce serait plus facile sans doute de partir de ce que vous savez, quoi, du système athénien. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a envie de...
Le système du tirage au sort, quoi.
Du tirage au sort, ouais. Donc constituer des assemblées par le tirage au sort, et puis remplir certaines fonctions administratives aussi par le tirage au sort. Il y avait toujours des postes qui étaient élus, notamment pour les combats militaires. Et puis la structure n'était pas complètement égalisée, dans le sens où il y avait certaines fonctions qui étaient réservées à certaines des classes sociales. On a quand même réussi finalement à avoir une représentation assez large au niveau des citoyens, j'entends, à Athènes, notamment à partir du moment où on a commencé à payer les gens pour venir, quoi. Pour venir participer aux assemblées. Bon, à partir de ce moment-là, on a eu beaucoup plus de monde à venir, ça trouvait aussi sa justification dans le fait que le combat se passait en mer maintenant, de plus en plus, avec des grandes galères, quoi. Donc, y avait besoin de beaucoup de rameurs, et c'est encore des classes sociales plus basses en fait, en dessous des hoplites, en dessous de ceux qui faisaient le combat sur terre dans les phalanges, quoi, qui participent du coup à la guerre, quoi. Alors je sais pas trop à quoi ça peut nous emmener. Si il y a quand même l'idée qu'une fois qu'on a constitué des assemblées par tirage au sort, il faut encore prendre les décisions. Alors à Athènes, c'était pas par tirage au sort qu'on prenait les décisions, c'était le vote de l'assemblée, quoi. C'est un vote à main levée. Quand on peut acheter des votes, c'est une façon de vérifier que les votes qu'on a achetés font bien ce qu'on leur demande de faire, quoi. à bulletin secret, bon, ben, ce moyen de pression-là ne fonctionne plus. Mais en même temps, le vote à main levée, c'est aussi une façon de vérifier que le vote n'est pas fraudé, en fait. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de triche au niveau du décompte des voix, quoi.
Tu peux avoir le même avis suivant le système qui est appliqué, tu n'auras pas le même résultat. C'est ça qui est important aussi. Ton avis n'aura pas le même poids.
De votre part approbation, vous dites les candidats que vous validez. Donc, mettons qu'il y ait 5 candidats, ben, le candidat 1 et le candidat 3, je les approuve. Donc le bulletin ressemble à ça, quoi. Il y a tous les candidats, et pour chacun, ben, vous mettez une croix ou vous n'en mettez pas, quoi. Voilà, ça c'est le vote par approbation. Est-ce qu'on va choisir un extrême ou est-ce qu'on va choisir un candidat centriste et dépendant des électeurs en eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est à eux de voir où est-ce qu'ils placent leurs limites. Au sens où, ok, il y a ce candidat-là qui me plaît vraiment beaucoup. Le candidat C me plaît beaucoup, beaucoup. Ok, donc je vote pour lui, c'est sûr. Maintenant, le candidat qui a un peu du même avis, il y a des choses sur lesquelles ils se rejoignent, mais pas tout à fait. Bon, bah, est-ce que je l'inclus dans la liste de ceux que j'approuve ou pas ? Plus j'ai tendance à ne pas vouloir d'extrême, plus j'ai peur finalement des extrêmes de l'autre côté, et plus je vais avoir tendance à choisir cet autre candidat qui s'appelle par exemple E, quoi. C'est un candidat qui est plus vers le centre. Mais bah, je vais peut-être le choisir. Et finalement, chaque électeur décide où est-ce qu'il trace la ligne, quoi. Jusqu'à quel point, il va vouloir du Bayrou ou pas, quoi.
Finalement, ça favorise le centriste.
Non, oui. Ça favorise le centriste si les électeurs, massivement, sont OK pour un candidat du centre. Qu'est-ce qu'il peut faire qui choisisse ? C'est aux électeurs de choisir là où ils placent la limite de ce qu'ils sont prêts à tolérer comme centrisme, quoi.
Bon, on se retrouve avec Macron.
Oui, mais non, mais c'est ça. C'est-à-dire que
c'est le fameux champ de vote utile. En fait, c'est
dans le vote par approbation,
je sais pas. Ouais, c'est ça.
Dans le vote par approbation, c'est à chacun de voir si
les gens ne donnent pas leur opinion.
Il va inclure du Macron ou pas, quoi, en fait. Ok. Et donc pour chaque scrutin, si on est dans une période où les gens ont plutôt peur des extrêmes et donc ils vont aller choisir du Macron, bah oui, il y a des chances que ça soit Macron qui soit élu, sachant que pour être élu en vote par approbation. Un candidat, il doit aussi avoir un soutien fort, pas seulement de ceux qui votent pour d'autres. Il doit aussi avoir un soutien fort personnel. Il semblerait que dans les faits, c'est comme ça que ça se produise, quoi. Il doit avoir un électorat derrière lui qui va voter seulement pour lui aussi, quoi. Mais quand on est dans une période où les gens n'ont pas tant que ça peur des extrêmes ou ils veulent pas de centrisme, quoi. Ils veulent pas de centrisme. Ben, y a des chances que, quitte à ce que ça soit l'un un camp ou l'autre, quoi. Ben, dans ce cas-là, c'est à eux de mettre leurs limites plus bas, en un sens.
Cocher moins de cases.
Cocher moins de cases, oui.
Et les sociétés ont dit matriarcales. Ben, c'est les femmes qui choisissent aussi des chefs, parce que c'est quand même les chefs, c'est quand même les hommes qui prennent des décisions, enfin, qui sont chefs de tribu, quoi. Ouais, c'est assez curieux. Hein.
Ouais. Alors, les femmes c'est vrai que c'est différent des hommes en termes de prise de décision. Notamment sur les décisions à l'unanimité, où elles ont tendance à être plus dans... C'est-à-dire, quand l'unanimité est exigée, elles ont tendance à être dans les groupes où il y a plus de femmes, plutôt ça en fait. Enfin, dans les groupes où il y a beaucoup de femmes, plutôt. Ça va être des décisions qui vont être plus coopératives, moins conflictuelles, et où le résultat va être plus égalitaire. C'est un test qui a été fait notamment où il s'agissait de se répartir une somme, quoi. Les uns avec les autres.
Voilà, donc du coup, est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus de consensus chez les femmes ? Recherche de consensualité un peu ?
Non, c'est-à-dire, ça dépend de l'objectif. Si tu veux un résultat qui soit égalitaire et où on se fait chier pendant les décisions, et ben ouais, c'est vaut mieux des femmes, quoi. Enfin, après, ça, c'était des expériences qui ont été menées aux États-Unis, si je dis pas de bêtises, et je sais plus trop dans quelles années d'après-guerre, mais.
L'idée des quotas, tout ça, moi je trouve que c'est artificiel, enfin, imposer des quotas.
Alors, je pense qu'on peut parler des minorités un peu, c'est aussi intéressant comme sujet. Quand on est anarchiste, c'est pas très évident de, je crois, de défendre les minorités. Quand on est anarchiste. On est censé ne pas vouloir d'État, en fait. On veut pas d'État, quoi. Donc, limite, on va même pas aller voter quand il y a des élections...
Pas de groupe, quoi, du coup.
National.
Comment ? Pas de groupe constitué.
De où? Ah si, voici l'anarchie aussi, c'est très ordonné quoi. Je crois que c'est
paradoxalement.
Je crois que c'est le sens du mot en fait. C'est un système avec des conseils, avec une organisation, une coordination à toutes les échelles géographiques. C'est un système qui est plus productif que tous les autres historiquement, il semblerait quoi. Que ce soit en agriculture ou en industrie. Et je pas envie d'en parler, vous ferez vos propres recherches si vous savez pas en quoi l'anarchie.
Mais
c'est,
quand tu parlais de minorité, fait, tu pensais à quelle minorité? Ouais.
Oui, alors toutes les minorités, y compris idéologiques. Quand on est anarchiste, je trouve que c'est difficile de défendre les minorités. Pourquoi? Parce que quand on est une minorité, ça veut dire que dans un espace qui est relativement, ben voilà, à l'échelle d'une commune, on va pas être très nombreux, quoi. Tandis que si on prend une échelle plus grande, mettons un État, là pour le coup, on va avoir la même proportion, mais ça commence à faire ce qu'on dit en maths une valeur absolue, c'est-à-dire le nombre total, qui va être beaucoup plus grand et donc qui va avoir beaucoup plus de possibilités de s'organiser et de se faire entendre. Ça parle ce que je dis là. Dans les systèmes de représentation, enfin dans les décisions qui peuvent être prises, qui vont dans le sens d'une minorité, il va y avoir par exemple, je sais pas comment on dit en français, ça serait le vote tiré au sort. Le vote tiré au sort. Le vote tiré au sort, c'est chacun vote et on fait un tirage au sort parmi les bulletins exprimés.
Parmi les bulletins exprimés. Ouais.
Ce qui veut dire que dans le temps, on va avoir quelque chose qui est représentatif, en tout cas des votes, et que ça peut être, on va avoir, à un moment donné, on va avoir une minorité qui va pouvoir se faire entendre de cette
c'est
façon.
C'est mieux que la proportionnelle, alors. Parce que proportionnelle aussi, c'est finalement, c'est permettre aux minorités d'être...
C'est mieux que la proportionnelle pour les minorités, peut-être. C'est-à-dire que, oui, dans une proportionnelle, les minorités ne vont pas avoir beaucoup de poids. Voilà. Pour autant, si tu vas avoir une classe politique professionnelle, tu vas avoir du coup beaucoup plus de rapports directs entre ces représentants des minorités et ces représentants de la majorité. Quoi. Donc la possibilité de davantage prendre en compte leurs aspirations, parce qu'ils peuvent être utiles à un moment ou à un autre quand il faut rameuter des troupes pour une mesure ou une autre. Quoi. Les minorités, dans les délibérations, dans la recherche d'un consensus, vont avoir quelques problèmes parce que d'une façon générale, on répète dans un groupe ce que les gens savent déjà ensemble. Ce qui va avoir du poids, c'est ce qui est déjà su par les gens, que les gens répètent, que les leaders répètent, et que c'est-à-dire les leaders, c'est ceux qui parlent le plus, typiquement, qui ont plus accès à l'information, qui ont plus de temps. Quoi. Et tout le monde répète les trucs que tout le monde sait. Quoi. Et ce qui est dit, qui va contrario au stage, qui va pas dans le bon sens, très facilement, on le met de côté. Quoi. Les minorités peuvent surprendre. C'est-à-dire que quelqu'un qui exprime la voix de la majorité, au bout d'un moment, on l'écoute plus vraiment. En fait. C'est pas vraiment intéressant ce qu'il a à dire. On est d'accord et ça contribue à l'esprit groupe. Et il y a des chances qu'au final, on fasse ce qu'ils disent. Mais on n'écoute pas vraiment ce qu'il dit. Quoi. Les minorités ont la possibilité de surprendre. C'est-à-dire que quand elles défendent une opinion qui paraît contradictoire ou paradoxale par rapport à la position qu'elles ont, ça amène à réfléchir. Quand il s'agit de se rappeler les arguments qui sont fournis dans le cadre d'un débat, vous êtes opposé à quelqu'un, vous discutez avec quelqu'un, vous n'êtes pas du même avis. De quoi vous allez vous souvenir? Vous allez vous souvenir des arguments forts que vous avez donnés, et vous allez vous souvenir des arguments faibles qu'a donné l'adversaire. Et vous allez oublier les arguments faibles que vous avez donnés, et vous allez oublier les arguments forts qu'a donné l'adversaire. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'une minorité a la capacité de surprendre. Ça ne veut pas dire qu'elle le fait tout le temps. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où elle arrive à formuler une opinion qui paraît juste étrange par rapport à la position qu'elle a, quoi. C'est-à-dire, on ne s'attend pas à ce que cette personne-là dise ça, quoi. À ce moment-là, ça amène à réfléchir. Bien souvent, c'est sur des choses qui sont assez annexes par rapport à la, ça va pas vraiment aller dans le... C'est pas quelque chose qui va procurer un avantage à cette minorité. Parce que si ça, d'autant plus que si ça procure un avantage apparent à cette minorité, on se dit, ah bah c'est pour ça qu'ils le disent. Okay. Donc, enfin, en fait, on se dit, putain, ces minorités-là, je veux dire, elles sont toujours en train de défendre leur beurre. C'est un peu relou, quoi. Elles sont pas trop dans un esprit démocrate, quoi, en fait. Voilà. Mais une minorité a la possibilité de faire avancer la réflexion, quoi. Okay. C'est beaucoup plus difficile, semblerait-il, amener à réfléchir en disant quelque chose de surprenant quand on fait partie de la majorité. On ne s'écoute plus, en fait. On est à peu près tous d'accord sur le truc, quoi. Mais, donc il n'y a plus besoin, finalement, de se comprendre. Il n'y a plus besoin de chercher à comprendre ce que dit l'autre. On sait qu'on est grosso modo d'accord. Ce qui fait que la délibération, le consensus, la discussion pour trouver une unanimité, ça fonctionne bien, c'est quand même quand il y a une bonne ambiance, quoi. Parce que sinon, ça risque de pas très bien fonctionner. L'unanimité, la recherche d'unanimité, ça peut amener à ce que les gens se taisent parce que sinon, on va jamais l'atteindre, cette unanimité. Donc, on va plutôt fermer sa gueule quand il y a quelque chose qui se dessine. Bon, bah, allez, hop, c'est parti. Ou au contraire, ça va aviver les tensions. C'est-à-dire qu'il va y avoir une polarisation et les gens vont ardemment défendre leur position et ça va au clash, quoi. C'est d'autant plus le cas quand, par exemple, il y a un groupe qui est minoritaire. Simon frappe Thomas, ça veut pas forcément dire qu'il va le refaire. Maintenant, si tu dis Simon déteste Thomas, là, ça peut impliquer qu'il va lui remettre un coup plus tard. Et les mots qu'on emploie entre concret et abstrait, c'est, encore une fois, c'est pas la même chose selon qu'on parle de son propre groupe ou d'un groupe autre, quoi. Quand un membre d'un groupe extérieur fait quelque chose de mal, c'est quelque chose qui va être plus dans la... qui va se poursuivre, en fait, donc plus abstrait. Et quand c'est quelque chose de bien, on va employer quelque chose de plus concret. Et inversement, pour son propre groupe, vous avez compris, quoi. Si c'est on rencontre un groupe à haut statut, et ben dans ce cas-là, on va être plus dans la convergence. C'est-à-dire qu'on va employer des façons de s'exprimer qui vont se rapprocher de ce groupe-là. Tandis que quand on a affaire à un groupe qui a un statut plus bas, et ben au contraire, on va appuyer sur ce qui nous distingue. Donc on va plus parler avec la manière qu'on a de parler qui s'éloigne de celle de l'autre groupe. Mmh. Ça semble assez inconscient comme démarche, quoi. Mmh. Je sais pas, il y a quelque chose. C'est assez délicat, hein, l'opposition, quoi. Pour sortir de l'opposition, la position de médiateur n'est pas forcément une bonne chose, parce que ça peut raviver, finalement, ça peut accentuer la notion d'agresseur-agressé. Quand on défend l'agressé, ça veut dire qu'on confirme le fait que c'est l'agressé. Or, le fait de se sentir agressé, c'est ce qui permet de justifier qu'on soit agresseur et de l'être d'autant plus, quoi.
Tu es un peu à l'œil.
Je ne parlais pas de notre main levée nécessairement. Hein.
Non, mais.
Simplement de la notion de s'assembler et de participer. Mm-hmm. Ça peut être fatigant à force, quoi. C'est-à-dire que l'anarchie, bon, bah, ouais. Ça a été 3 ans en Espagne, donc on n'a peut-être pas eu le temps. Puis c'était la guerre, donc je veux dire. Mais si, à partir du moment où les choses se sont stabilisées, est-ce que c'est un système qui tient la route, au sens où, au bout d'un moment, les gens ont envie que ça fonctionne tout seul, quoi. Et le moins on en sait sur comment ça fonctionne, le mieux c'est, quoi.
Ouais.
Une question d'échelle aussi. Dire, ça dépend du nombre.
Alors l'anarchie, encore une fois, c'était très ordonné. Tu avais des fédérations, pas des fédérations, il y avait des collectifs, et puis il y avait des comités d'immeubles, je parle en ville, qui pouvaient amener à des comités de quartier, et ainsi de suite. Et donc avec des représentants... qui étaient envoyés dans les comités en un sens supérieur, mais qui n'avaient pas forcément un rôle décisionnaire, c'est-à-dire c'était plus un rôle de coordination. Ça l'a été moins à partir du moment où il a fallu se trouver des compromis avec les autres forces de gauche dans la guerre civile.
Je pense 5 millions, par exemple, l'anarchie, c'est peut-être plus compliqué qu'à 2
000. Ça concernait des millions de personnes, en Espagne. Le vote à plusieurs tours, à 2 tours, ça semble assez spécifique à la France. Hein. Mmh. On n'a pas, enfin, j'avais pas vraiment conscience, mais c'est considéré comme trop coûteux, en fait, comme système de vote. Et il y a d'autres problèmes aussi. Hein. C'est-à-dire, dans des pays autres que les nôtres, tout est très calme. Entre les 2 tours, quand il y a un des 2 candidats qui est à peu près sûr qu'il va pas être élu le coup d'après, enfin le pour le tour suivant, la tentation peut être grande de prendre le pouvoir par, enfin, de continuer la bataille. Quoi.
Ah, c'était qui Condor, ça?
C'est un lycée à Paris, ça, non?
Ouais, ouais.
C'est un mec qui est mort.
Le canapé d'Alger.
Ah oui, le divan d'Alger. Du coup, t'en as pas parlé du divan d'Alger.
Ouais,
t'as
pas dit.
Ouais, mais on connaît pas.
Du coup,
est-ce qu'il était confortable?
C'est pas grand-chose en vrai sur le divan d'Alger. On a quelques.
Du coup, c'est intéressant.
On sait qu'il y a un ambassadeur. Je crois que c'est un ambassadeur, un émissaire français en tout cas, qui s'est fait, qui a failli se faire tuer à coups de pied au divan d'Alger, quoi. Mais on sait pas grand chose, il n'y a pas beaucoup d'écrits des pirates.
Ouais.
Qui est très égalitaire d'ailleurs.
Voilà, les pirates.
C'est quelque chose qui est intéressant à mentionner, ça, ouais. En termes de répartition du butin, quoi.